Moi, je suis agronome, et donc, dans quelle mesure on peut considérer que le patrimoine fruitier qui est centenaire et voire millénaire est aujourd'hui à la pointe de l'arboriculture de demain? Bon, vous entendez, vous avez pu constater en arrivant le verger de pommiers tel qu'il est conçu aujourd'hui, hein, vous voyez les grands vergers hyper intensifs sous des filets paragrêles. Vous entendez parler de la pomme qui aujourd'hui reçoit 30 traitements sur la tête avant de finir dans vos paniers. Et effectivement, la filière fruitière aujourd'hui est un peu en bout de course. Alors, bon, j'ai repris des termes techniques, mais un nombre de traitements toujours plus élevé. L'IFT, c'est l'indice de fréquence des traitements. Bon, c'est ce qu'on utilise en agronomie, on s'en fiche, mais c'est le nombre de traitements toujours plus élevé par rapport à des risques sur ces vergers-là. On est justement en arboriculture aussi, on croirait pas comme ça quand on connaît pas trop et quand le consommateur s'interroge pas trop, mais on est aussi dans une fuite en avant technologique parce qu'il y a vraiment des enjeux techniques, économiques et politico-économiques. Donc on parle aujourd'hui en recherche de fruitiers cisgéniques hein, qui sont développés, transgéniques ou cisgéniques, qui sont développés par l'INRA à Angers notamment. On parle d'insectes qui sont génétiquement modifiés, qui sont proposés par certaines sociétés pour être relâchés dans les campagnes. C'est encore expérimental, je vous rassure, mais ça se fait un peu avec des moustiques en Asie, et aujourd'hui c'est proposé en Europe pour lutter contre certains ravageurs de relâcher dans la nature des insectes de la même espèce, mais qui soient génétiquement modifiés pour aller réduire les populations petit à petit. Voilà, on est dans cette fuite en avant, des filets anti-insectes, donc des filets en plastique qui coupent complètement le verger dans son environnement pour empêcher à tous les insectes d'accéder aux arbres, des systèmes de pulvérisation hyper high-tech, etc. Donc on est dans des modèles de vergers qui sont vraiment sous perfusion, qui sont complètement dépendants de l'agriculteur, des techniciens, des conseillers en produits phyto, et qui sont vraiment dans des conditions impropres à la durabilité. Hein, qu'on parle de vergers conventionnels, mais qu'on parle aussi de vergers bio, qui sont souvent sur des modèles hyper intensifs. Et donc un coût de production avec toutes ces techniques qui poussent vraiment les producteurs au rendement. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils sont aussi dans des filières de valorisation à l'export, avec des cahiers des charges qui ne supportent pas une seule déformation, une seule tâche. Donc ils sont obligés de maximiser leur rendement et surtout d'avoir zéro défaut sur leurs produits. Et puis une sélection variétale, et là j'en viens un peu à ce que je disais en introduction, qui a été inchangée depuis 30 ans, qui a été laissée aux obtenteurs, c'est-à-dire que c'est les pépiniéristes et avant eux, ceux qui font du business sur la sélection variétale et la proposition de nouvelles variétés, c'est eux qui font les choix techniques pour les proposer aux producteurs. Et on a un peu dépossédé les arboriculteurs de ce patrimoine fruitier qu'ils avaient dans leur pays et sous les yeux, alors que la variété est avant tout la clé de voûte du verger. On leur a proposé des variétés qui sont plus productives, qui sont plus grosses, qui sont plus jolies, qui vont plaire aux consommateurs. Mais la contrepartie, c'est que ça va coûter très cher à faire, qu'il va falloir 15 insecticides et 10 fongicides pour arriver à les produire. Donc on a un peu ce modèle, bon, vous ne voyez rien mais c'est pas bien grave, ce modèle de sélection où toutes les variétés qui sont en gras sont des variétés américaines. On a repris des variétés du matériel génétique hyper productif américain, et on a toujours réutilisé le même matériel génétique pour faire des croisements, des hybridations et pour arriver à des nouvelles variétés modernes. Voilà, mais tout ça pour dire que c'est assez hyper concentré. Et qu'on est arrivé à deux modèles antinomiques entre une arboriculture moderne intensive à gauche et puis une arboriculture qu'on pourrait plus qualifier de paysanne, avec donc peu de variétés qui ont été plantées partout. Hein. Ici, dans le pays de Gap, vous avez que de la Golden quasiment, qui est un fruit qui est adapté à la région alpine parce qu'on est en moyenne montagne, mais quand on la met en plaine, en Val de Loire ou en vallée de la Garonne, c'est vraiment dégueulasse pour le dire. Clairement. À l'opposé, donc on peut avoir une diversité variétale adaptée aux conditions locales. On a une sélection variétale concentrée qui s'est internationalisée et accélérée, alors que la sélection paysanne s'est faite dans le temps, justement, par rapport au terroir, aux capacités du terrain, par rapport aux besoins en froid, besoins en chaud. Enfin, c'est des paramètres très importants dans l'adaptation des variétés. Donc, comme je l'ai un peu dit, on a du matériel qui est très dépendant de la protection phytosanitaire dans un cas, alors que dans le cas des variétés locales, on est des variétés beaucoup plus rustiques, beaucoup plus autonomes. Une des conséquences, c'est que dans le premier modèle, on a des producteurs qui sont pieds et mains liés aux critères de sélection qui leur sont imposés, donc qui vont être le rendement, le calibre, la couleur, alors qu'on avait un modèle paysan où à l'époque, les agriculteurs connaissaient le matériel de leur pays, étaient en capacité de choisir, de trouver les variétés localement, et c'est un peu un modèle en perdition. Donc, en opposant un objectif de rendement maximisé dans le premier cas et un rendement plus maîtrisé, adapté au potentiel du verger. Et puis dans le premier cas, un circuit long, parce qu'on est dans un modèle de grosse production où il faut valoriser à l'export et vendre en gros, parce qu'on ne s'en sortira pas en circuit court, avec donc, comme je disais, une contrainte esthétique où on ne peut pas supporter un défaut quand on a des acheteurs, des centrales d'achat nationales ou internationales, qui ne peuvent pas se permettre de refuser un lot de 20 tonnes. Donc voilà, ça met une pression sur l'agriculteur qui est obligé de fournir un fruit zéro défaut. À l'inverse, en circuit court, donc on peut valoriser beaucoup plus facilement, faire connaître aux consommateurs ou au magasin local une variété locale qu'ils ne connaissent pas encore. On peut aussi vendre des fruits qui soient un peu imparfaits sur des marchés en valorisant l'atypicité, je mets L apostrophe atypicité de la pomme par rapport à des pommes complètement standardisées. Voilà, donc. Pour moi, le patrimoine fruitier, on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, le patrimoine fruitier, pour moi, il est aussi acteur d'une slow science dans la mesure où il s'est constitué sur des décennies, des siècles de savoirs qu'on appelle nous des savoirs profanes, donc des savoirs d'habitants du territoire, d'agriculteurs qui ont préservé les variétés intéressantes dans la durée. Et donc, ce patrimoine fruitier aujourd'hui. Pourquoi il est pertinent? Parce qu'il permet de proposer donc des vergers plus rustiques et plus durables, comme je vous l'ai montré. Une production plus saine, puisque donc en étant plus rustique, le verger nécessite moins d'intervention. Une production qui soit plus diversifiée aussi, c'est-à-dire que sur les territoires, vous allez retrouver une diversité de variétés. Aujourd'hui, on demande aux consommateurs de citer des noms de variétés de pommes. Il peut difficilement dépasser les 4 ou 5 variétés, alors que notre patrimoine français, c'est quand même 2500 pommes et à peu près autant de prunes, d'abricots, etc. Donc c'est quand même un peu dommageable. Relocaliser les systèmes alimentaires. Réduire le gaspillage alimentaire, parce que vous imaginez que quand il y a des variétés à haut rendement et qu'il faut un zéro défaut, il y a quand même de la casse au niveau du verger. On parle souvent du gaspillage alimentaire en aval après la centrale d'achat ou après le point de vente au détail, et à la maison. Et il y a aussi énormément de gaspillage alimentaire au niveau de l'exploitation, parce que les quelques fruits qui sont trop petits, un peu tachés, etc., ils sont déclassés, et donc il y a énormément de pertes à la ferme également. Rééduquer les consommateurs aux différents goûts, parce qu'on a aussi standardisé les goûts depuis longtemps, et aussi à l'imperfection, à apprendre un peu à accepter des produits qui ne soient pas parfaits, parce que c'est lourd de conséquences techniques et environnementales derrière. Et également une meilleure adaptation au changement climatique, parce qu'on sait aussi très bien que ces variétés de terroir, elles sont une réponse claire au changement climatique qu'on a du mal à prévoir. Et ces variétés anciennes, elles sont une capacité à s'adapter, à évoluer et à répondre aux besoins en froid, besoins en chaud, en été, en hiver. Et donc elles sont une réponse beaucoup plus facile et disponible que des outils, des moyens de recherche qui devraient être développés et qui prendraient encore trop de temps pour une solution hasardeuse. Voilà, donc en partant d'une variété locale, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais d'une variété locale qui perd un peu en notoriété, mais montrer que effectivement on peut reconnecter aux discussions qu'on a et montrer que les savoirs profanes ont encore leur place pour une agriculture locale à défendre. Merci.